Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Le livre tibétain de la vie et de la mort. Par Sogyal Rinpoche. Première partie, la vie. Six, évolution, karma et renaissance. Suite. Le karma. La nuit où le Bouddha atteignit l'illumination, il parvint dans la seconde veille à une autre connaissance qui vint compléter sa compréhension de la renaissance, celle du karma, la loi naturelle de cause à effet. À l'aide de l'œil divin pur, au-delà de la portée d'une vision humaine, je vis comment les êtres disparaissaient et revenaient à l'existence. Illustre ou insignifiant, dans une condition élevée ou basse, et je compris que chacun obtenait une renaissance heureuse ou malheureuse, selon le karma qui était le sien. La vérité est la force motrice qui sous-tend la renaissance, constitue ce qu'on appelle le karma. La notion de karma est souvent très mal comprise en Occident. On le confond avec le destin ou avec la prédestination. Une meilleure approche est de l'envisager comme la loi inéluctable de cause à effet qui gouverne l'univers. Le terme karma signifie littéralement action. Le karma est à la fois le pouvoir latent contenu dans les actions et le résultat de ces actions. Il existe plusieurs sortes de karma. Le karma international, national, le karma d'une ville et karma individuel. Tous sont inextricablement reliés et ne peuvent être compris dans toute leur complexité que par un être pleinement éveillé. En termes simples, que veut dire karma? Cela signifie que tout ce que nous faisons au moyen de notre corps, notre parole et notre esprit entraîne un résultat correspondant. Chaque action, même la plus insignifiante, porte en elle-même ses conséquences. Les maîtres font remarquer qu'une dose infime de poison suffit à causer la mort et qu'une graine minuscule peut devenir un arbre immense. Et le Bouddha disait : ne jugez pas à la légère une action négative sous prétexte qu'elle est de peu d'importance. Même une toute petite étincelle peut embraser une meule de foin de la taille d'une montagne. Il disait également, ne méprisez pas d'infimes actions positives en pensant, cela n'a aucune conséquence. Des gouttes d'eau, même minuscules, finissent en effet par remplir un récipient énorme. Le karma ne se désagrège pas comme les objets matériels. Il ne devient jamais inactif. Il ne peut être détruit, ni par le temps, ni par le feu, ni par l'eau. Son pouvoir ne saurait disparaître tant qu'il n'aura pas mûri. Il se peut que le résultat de nos actions ne soit pas encore arrivé à maturité. Il mûrira cependant, immanquablement, quand les conditions seront propices. Nous oublions généralement ce que nous avons fait, et ce n'est que bien plus tard que les résultats nous atteignent. Nous sommes alors incapables de les relier à leur cause. Imaginez un aigle, nous dit Jigme Lingpa. Il vole haut dans le ciel. Il ne projette aucune ombre. Rien ne me laisse soupçonner sa présence. Soudain, il aperçoit sa proie et fond sur l'animal. Ce n'est qu'au moment où il plonge vers le sol que son ombre apparaît, menaçante. Le résultat de nos actions est souvent différé. Il n'apparaît même parfois que dans des vies futures. Il est impossible d'isoler une cause, parce que tout événement peut être provoqué par un mélange très complexe de plusieurs karmas arrivant à maturité au même moment. C'est pourquoi nous avons tendance pour le moment à présumer que les choses nous arrivent par hasard. Et quand tout va bien, nous disons simplement que nous avons de la chance. Et pourtant, quoi d'autre que le karma pourrait vraiment expliquer de façon satisfaisante les différences extrêmes et extraordinaires qui existent entre les uns et les autres. Même si nous sommes nés dans la même famille, dans le même pays ou dans des circonstances identiques, nos caractères et les événements de notre vie sont totalement différents, de même que nos talents, nos penchants et nos destinées. Ce que vous êtes est ce que vous avez été, disait le Bouddha. Ce que vous serez est ce que vous faites maintenant. Padmasambhava développait cette idée. Si vous désirez connaître votre vie passée, examinez votre condition présente. Si c'est votre vie future que vous désirez connaître, examinez vos actions présentes. La bienveillance. La qualité de notre renaissance future est donc déterminée par la nature de nos actions dans cette vie. Il est important de ne jamais oublier que la portée de nos actions dépend entièrement de l'intention ou de la motivation qui les anime, et non de leur ampleur. Au temps du Bouddha, vivait une vieille mendiante, appelée celle qui s'en remet à la joie. Elle regardait les rois, les princes et les gens du peuple qui venaient faire des offrandes au Bouddha et à ses disciples. Elle aurait tant voulu pouvoir faire de même, Elle alla donc mendier, mais à la fin de la journée, elle n'avait reçu qu'une toute petite pièce. Elle se rendit alors chez le marchand pour essayer d'acheter un peu d'huile. Mais il lui dit qu'elle ne pouvait guère espérer acheter quelque chose avec si peu d'argent. Cependant, quand elle lui eut expliqué qu'elle voulait faire une offrande au Bouddha, il eut pitié d'elle et lui donna l'huile demandée. Elle emporta cette huile au monastère. Et alluma une lampe qu'elle plaça devant le Bouddha en faisant ce vœu. Je n'ai rien d'autre à offrir que cette petite lampe, mais puissais-je, par cette offrande, recevoir dans le futur la grâce de la lampe de sagesse. Puissais-je libérer tous les êtres de leurs ténèbres. Puissais-je purifier ceux qui les aveuglent et les conduire à l'éveil. Cette nuit-là, les autres lampes s'éteignirent après avoir consumé toute leur huile. Seule la lampe de la mendiante brûlait toujours quand Moggallāyana, un disciple du Bouddha, vint les enlever à l'aube. Lorsqu'il aperçut cette lampe encore allumée, pleine d'huile, avec sa mèche toute neuve, il se dit « Il n'y a aucune raison pour que cette lampe continue à brûler un plein jour. » Il souffla pour l'éteindre, mais elle continua à brûler. Il essaya de la moucher avec ses doigts, mais en vain. Il tenta de l'étouffer avec sa robe. Mais elle brûlait toujours. Le Bouddha, qui observait la scène depuis le début, lui dit « Moggallāyana, tu veux éteindre cette lampe, tu n'y parviendras pas. Tu ne pourrais même pas la déplacer. Comment pourrais-tu l'éteindre ? Si tu versais l'eau de tous les océans sur cette lampe, elle brûlerait encore. L'eau de toutes les rivières et de tous les lacs du monde ne saurait l'éteindre. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que cette lampe a été offerte avec ferveur, avec un cœur et un esprit pur. Cette motivation l'a rendu extrêmement bénéfique. Quand le Bouddha eut prononcé ces paroles, la mendiante s'approcha de lui. Il prophétisa alors qu'elle deviendrait, dans les temps futurs, un Bouddha parfait, appelé lumière de la lampe. C'est donc notre motivation, bonne ou mauvaise, qui détermine le fruit de nos actions. Shantideva disait « L'origine de toute joie en ce monde est la quête du bonheur d'autrui. L'origine de toute souffrance en ce monde est la quête de mon propre bonheur. La loi du karma étant inéluctable et infaillible, c'est à nous-mêmes que nous nuisons lorsque nous faisons du mal aux autres. Et c'est à nous-mêmes que nous assurons un bonheur futur lorsque nous donnons aux autres du bonheur. » Le Dalai Lama dit « Si vous essayez de réfréner vos motivations égoïstes, colère et autres, développez davantage de bienveillance et de compassion envers autrui. C'est vous, en définitive, qui en bénéficierez. Je dis parfois que telle devrait être la pratique d'un égoïste sage. Un égoïste stupide ne pense qu'à lui-même et cela ne lui est d'aucun profit. L'égoïste sage pense aux autres, les aide autant qu'il le peut, et en conséquence reçoit lui aussi des bienfaits. La croyance en la réincarnation nous montre qu'il existe bien dans l'univers une certaine forme de justice ou de bonté ultime. C'est cette bonté que nous nous efforçons tous de découvrir et de liberté et de libérer en nous. Chaque acte positif nous en rapproche. Chaque acte négatif, la masque et l'entrave. Chaque fois que nous parvenons à l'exprimer dans notre vie et dans nos actes, nous nous sentons malheureux et frustrés. Si l'on ne devait retenir qu'un enseignement sur la réalité de la réincarnation, ce serait celui-ci. Développer cette bienveillance qui souhaite ardemment un bonheur durable pour autrui et agissez en ce sens. Pratiquez la bonté. Maintenez-la vivante. Il n'est nul besoin de temple, dit le Dalai Lama. Nul besoin d'une philosophie compliquée. Notre cerveau, notre cœur, sont notre temple. Ma philosophie, c'est la bonté. La créativité. Le karma n'est donc pas une fatalité. Il n'est pas prédéterminé. Karma désigne notre capacité à créer et à évoluer. Il est créateur parce que nous pouvons déterminer notre façon d'agir et la motivation qui l'anime. Nous pouvons changer. L'avenir est entre nos mains. Il est dans notre cœur. Le Bouddha disait: le karma crée toute chose, tel un artiste. Le karma compose, tel un danseur. Toute chose étant par nature impermanente, fluide et interdépendante, notre mode de pensée et nos actions modifient inévitablement l'avenir. Toute situation, aussi désespérée ou insupportable soit-elle, comme par exemple une maladie incurable, peut être utilisée pour progresser. Il n'existe aucun crime, aucune cruauté qu'un regret sincère et une pratique spirituelle authentique ne puissent purifier. Milarepa est considéré comme le plus grand yogi, poète et saint du Tibet. Je me souviens de l'émotion que je ressentais enfant lorsque je lisais l'histoire de sa vie et contemplais longuement les petites illustrations peintes dans mon exemplaire manuscrit. Jeune homme, Milarepa avait appris la sorcellerie et par vengeance, il usa de sa magie noire pour tuer et ruiner un grand nombre de gens et ravager de nombreuses existences. Pourtant, grâce aux remords, aux épreuves et aux privations qu'il endura auprès du grand Marpa, son maître, il lui fut possible de purifier tous ses actes négatifs. Et finalement, il atteignit l'éveil. Il est demeuré depuis une inspiration pour des millions de personnes au cours des siècles. Nous disons au Tibet, l'action négative possède une seule qualité, celle de pouvoir être purifiée. Il y a donc toujours de l'espoir. Même les meurtriers et les criminels les plus endurcis peuvent se transformer et triompher du conditionnement qui les a poussés au crime. Notre condition présente, si nous savons l'utiliser avec habileté et sagesse, peut nous inspirer le désir de nous libérer de l'esclavage de la souffrance. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui est le reflet de notre karma passé. Si nous admettons cela, si nous en sommes profondément convaincus, nous cesserons de considérer les souffrances et les difficultés qui surviennent comme un échec ou une tragédie. Et nous n'interpréterons pas la douleur comme une punition. Nous cesserons de nous en prendre à nous-mêmes ou de nous complaire dans la haine de soi. Nous percevrons la douleur que nous subissons comme l'accomplissement de certaines conséquences, le fruit d'un karma passé. Les Tibétains disent que la souffrance est un coup de balai qui nettoie tout notre karma négatif. Nous pouvons même nous montrer reconnaissants qu'un karma s'achève. La chance, fruit d'un bon karma, peut disparaître rapidement si nous n'en faisons pas bon usage. L'infortune, conséquence d'un karma négatif, peut au contraire nous offrir une merveilleuse occasion de progresser. Pour les Tibétains, le karma prend un sens tout à fait vivant et pratique dans le cadre de leur vie quotidienne. Connaissant la vérité de ce principe, ils vivent en accord avec lui. C'est le fondement de l'éthique bouddhiste. Il l'appréhende comme un processus naturel et juste. Ainsi, le karma insuffle à chacune de leurs actions un sens de responsabilité personnelle. Quand j'étais jeune, ma famille avait un serviteur merveilleux du nom d'Apé Dorje, qui m'aimait beaucoup. C'était réellement un saint homme. De sa vie, il n'avait fait de mal à personne. Lorsque, enfant, j'en venais à dire ou à faire quelque chose de mal, il me faisait tout de suite remarquer gentiment. « Oh, ce n'est pas bien. » Il m'inculqua ainsi un sens profond de l'omniprésence du karma et une habitude presque automatique de modifier ma réaction dès que s'élevait en moi la moindre pensée nuisible. Est-il vraiment si difficile de percevoir l'action du karma? Il nous suffit de regarder en arrière. N'est-il pas évident que les conséquences de certains de nos actes ont affecté notre vie? Lorsque nous avons contrarié ou blessé quelqu'un, cela ne s'est-il pas retourné contre nous? Ne nous en est-il pas resté un souvenir amer et sombre et le spectre du dégoût de soi? Ce souvenir, ce spectre est le karma. Nos habitudes et nos peurs sont aussi imputables au karma. Elles sont la conséquence de nos actions, paroles et pensées d'autrefois. Si nous examinons nos actions de près et leur prêtons véritablement attention, nous nous apercevrons qu'elles se reproduisent selon un schéma répétitif. Tout acte négatif nous conduit à la douleur et à la souffrance. Tout acte positif appelle, tôt ou tard, le bonheur. C'était le livre tibétain de la mort, évolution, karma et renaissance. Prochain épisode, suite, la responsabilité. Merci et à bientôt dans la quatrième dimension.